With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est moi qui présente.
Oui. Tout à fait, c'est vous, monsieur. Allez-y.
Prends mon micro comme Johnny Hallyday, je suis prêt.
Tout va bien.
Salut, c'est Clément.
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, et vous écoutez bien le son d'après. On en est à l'épisode numéro 30 et je fais un lancement tout pourri. Louise est mort de rire. Ouais, mais oui, de temps en temps, c'est bien.
Ouais, non, mais
c'est
là,
on
ne
la coupera pas,
là,
on est à l'épisode 30.
On est ensemble.
On est très content de vous retrouver comme tous les lundis. Hein, du coup, je suis accompagné de ma meilleure binôme.
Bonjour.
Louise, oui, vous l'avez entendu, elle rigole.
Bonjour, j'ai pas dit bonjour, je sais plus, je suis déjà perdue dans cet épisode.
On enchaîne, on est en grande forme.
Oui. Et tout à fait.
Et du coup, on arrive avec 4 nouveaux morceaux, comme toutes les semaines.
Oui.
Et Louise, cette fois, c'est toi qui commences.
Et oui, et c'est difficile parce que je ne savais pas du tout comment angler la présentation de ce titre. Parce que je vais vous parler d'un classique, mais pas du genre oublié ou du genre qui a 50 ans. Non, c'est un classique de nos années à nous, de ceux qui ont fait les années 2010. Et je le ramène parce que j'ai replongé dedans récemment, hein, comme si c'était une drogue dure. Et sincèrement, je ne saurais pas dire combien de fois je l'ai écouté ces dernières semaines, mais beaucoup trop pour une seule personne, probablement. Il me met dans un espèce d'état second bizarre entre grosse mélancolie, un peu de tristesse et un espèce de bonheur absolu musical. Donc on est au point culminant de ces trois choses-là, bizarres. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le morceau qu'on va écouter, c'est Losing You de Solange. Mmh. Et si vous ne ressentez pas des émotions en écoutant ce track, je ne sais plus quoi faire, vraiment. God, I don't know what to say. I love this track.
C'est cool.
Oh là là, j'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Je dis avec les mots, je crois que j'en ai marre. Non, en fait, j'en ai pas marre. Il est vraiment trop bien.
C'est ça. En fait, tu l'aurais. C'est reparti. Et puis.
Non, mais c'est
tu l'as écouté. Hop là.
Ouais.
On met une pièce dans la machine.
Exactement. Mais en fait, c'est. Je sais pas, genre, il me bouleverse trop. J'ai l'impression qu'il me fait vivre une mini rupture amoureuse alors que.
Que bah
pas
que
du
non.
Tout, bah voilà. Et il y a quelque chose dans le mélange entre cette prod à moitié dansant, à moitié drama,
ouais,
la voix de Solange. C'est, je sais pas, c'est genre un truc un peu merveilleux qui s'explique pas, quoi.
Ouais, mais tu sais, je trouve que ça vient toucher, c'est rigolo. J'entendais ça dans le podcast Request in Peace qu'on a déjà cité plusieurs fois.
Oui.
La discussion qu'ils avaient avec Nifa quand ils parlaient des années 80.
Oui.
Bah, je trouve qu'il y a totalement ces tonalités-là, tu sais, qui sont entre la. faites et quand même il y a quelque chose d'un peu down, un peu un peu nostalgique et tout, et je trouve que c'est vraiment ça moi que ça m'évoque en
ouais c'est ça, et en fait pour moi c'est grave une BO de film.
Ouais,
en fait ça m'évoque un truc, en fait c'est
y a
encore une fois plein de trucs tu vois, mais ça pourrait être un teenage movie, c'est le coucher du soleil et tu déprimes un peu sur la plage parce que c'est la fin de l'été, mais quand même ça te rappelle des souvenirs stylés, donc du coup t'es un peu mélancolique tu vois. Et San Junipero, je sais pas si t'as vu Black Mirror, cet épisode de Black Mirror là.
Si, ouais, je crois.
Qui se passe dans un espèce d'univers à moitié années 80.
Tout à fait, ouais.
Où vraiment, la bande son, c'est. Comment elle s'appelle ? Brenda Carlisle, je crois. Heaven is the Place on Earth.
C'est un peu. On est d'accord, c'est l'épisode où l'un des rares qui se termine un peu bien.
Oui, c'est l'un des rares qui est vraiment pas 100% creepy, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et visuellement aussi, il y a un truc où j'imagine I May Destroy You dans les vibes, tu vois, genre quand Arabella elle est en
ouais,
Italie.
La série sur OCS,
C'est vraiment très précis. Mais donc I May Destroy You, qui est une série incroyable que je vous recommande, qui est probablement la meilleure série de 2020, de la décennie.
Je me demande si d'ailleurs, je crois que tu l'as peut-être déjà même en reco il y a quelques.
C'est très probable.
Au début du son d'après.
C'est très probable. Et donc en bref, il y a un moment donné, le perso principal est en Italie sur une plage et tout. Et c'est vraiment, il y a ce causé-là. Et ce que tu dis sur les années 80, pour moi, c'est le synthé à 100%, tu vois. Ce synthé est aussi peut-être la suite d'accord qui donne ce truc hyper mélancolique, un peu les sad songs de Cyndi Lauper, tu vois.
Ouais, c'est vrai que j'étais vraiment content d'entendre ça dans Request in Peace, parce que ils ont vraiment mis les mots sur ce sentiment de se dire c'est ça en fait, vraiment les années 80, je trouve qu'on identifie à la musique des années 80, c'est vraiment ce sentiment là qui se dégage de 95% des morceaux quoi, et qui je pense fait aussi que c'est du coup hyper accrocheur.
Et en gros, le track est coproduit par Devante Hines, qu'on connaît mieux sous le nom de Blood Orange.
Ah bah oui,
voilà, qui est un chanteur, rappeur, producteur, je sais pas, il doit faire 8000 choses. Mais il fait aussi beaucoup de musique de film, et c'est pour ça que je me dis que ça me parle comme ça. Il a fait les musiques, entre autres, de Queen and Slim, du film Palo Alto aussi, et de la saison 4 de la série In Treatment, qui est sortie récemment sur HBO.
Tout à fait.
Il me semble.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
Donc pas trop étonné qu'il y ait cette vibe un peu visuelle quoi. Donc c'est un EP qui a été coproduit je crois en totalité par Devante Hines et Solange. Mm-hmm. Et puis bon bah voilà, les lyrics du morceau sont trop beaux. Je trouve qu'il y a un truc un peu entre, tu sais pas trop si c'est elle qui se fait quitter ou lui ou elle qui quitte son mec. Mm-hmm. Parce qu'il y a des phases où t'es en mode là t'es triste mais je sais pas, j'arrive pas à savoir,
c'est contrasté les histoires d'amour hein.
Et oui c'est vrai, et donc du coup voilà, donc voilà, j'adore ce track. Il est donc extrait de son EP True qui est sorti en 2012, qui signait à l'époque son grand retour, donc oui, Solange Knowles. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer qui elle est? Vous connaissez la famille Knowles, vous connaissez Beyoncé.
Voilà,
on connaît sa sœur.
Ah, c'est la sœur.
Voilà, on connaît sa sœur, très bien, voilà, qui prend énormément de place, hein, voilà. Solange, c'est sa petite sœur, oui, je crois, qui est une artiste incroyablement sous-cotée à mes yeux.
Moi, c'est ouf, en fait, j'avoue, quand tu passes ce morceau-là, j'avais zappé. En fait, tu vois, je me rends compte que je crois connaître ce morceau, mais je l'avais jamais identifié à Solange, parce que je crois que je n'ai jamais vraiment trop écouté cette partie de carrière.
En même temps, sa carrière, pour te faire un résumé, Lago commence à chanter avec un peu en... Je sais pas si elle fait des feats ou des chœurs avec les Destiny's Child, à l'époque où ça commence. Mmh. Elle sort son premier album à 16 ans, qui s'appelle Solo Star, en 2002-2003, et où il y a des prods notamment par des gars comme Pharrell, Timbaland, Jermaine Dupri, bon voilà, j'en passe, mais vous avez saisi que la personne est bien entourée, tu vois. Mais je crois que cet album est plus ou moins bien reçu, c'est-à-dire qu'elle essaye plein de trucs, et donc du coup les gens sont un peu en mode, qu'est-ce que t'essayes de faire, t'as 16 ans, qu'est-ce que tu... quoi.
En plus t'es la sœur d'eux, donc forcément...
C'est
un peu dur, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et elle sort un autre album en 2008, elle fait 4 ans de pause, jusqu'à sortir cette EP, True, dont Losing You est donc le track d'intro, et j'imagine le plus gros tube, parce qu'en fait, tu tapes True EP Solange et tout le monde parle que du clip de Losing You en fait, vraiment presque exclusivement. Et en fait c'est à ce moment là qu'elle part de son gros label pour se mettre en indé, donc je crois que cette EP est sortie sur un label d'un des mecs de Grizzly Bear, si je dis pas de bêtises, mais j'ai la moitié des infos.
Ouais, bah c'est, je trouve musicalement ça serait pas incohérent.
Voilà. Et donc après, elle a monté son propre label qui s'appelle Saint Records, sur lequel elle sort ses deux albums suivants, pour lesquels on la connaît mieux en vrai. A Seat at the Table en 2016 et When I Get Home en 2019, qui méritent clairement tous les deux votre attention. Hein. On va pas se mentir.
A Seat at the Table, c'est incroyable.
Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est ça. Pour mes recos, bien sûr, je vous recommande d'aller écouter le l'EP True en 2012, parce que c'était quand même un truc de « Waouh, il y a la petite sœur de Beyoncé qui ressort de la musique et elle s'est trouvée une vibe qui est un peu pas du tout celle de sa sœur. »
Ah ok, vraiment différente, ça c'est clair.
Et je suis d'accord avec toi, des deux albums qu'elle a sortis, il fallait que je fasse un choix. J'ai choisi A Seat at the Table, parce qu'en fait, c'est un classique, c'est une masterpiece. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc en gros, c'est un album qui est centré autour de la culture noire, autant sur l'empouvoirment que les struggles, le fait de célébrer sa communauté. C'est hyper beau, il y a des titres incroyables. Enfin, moi, j'ai noté là vite fait Mad avec Lil Wayne et Forest by Us, qui sont deux morceaux que j'adore, qui sont des petites claques comme ça, hop. Hop, prends-toi ça. Je vous conseille vraiment d'aller... En fait, je vous conseille, outre le fait d'écouter, d'aller lire les lyrics et d'essayer de comprendre ce que cet album raconte, parce qu'en fait, je pense qu'il est primordial.
Ouais, c'est un album important.
Ouais, c'est vraiment un album hyper important. Il y a beaucoup d'interludes avec des artistes, notamment Master P, qui est un gros artiste américain, mais aussi avec les parents de Solange et donc Beyoncé. Et il y a une interlude de sa mère qui s'appelle Tina Told Me, où ça parle justement de célébrer le fait d'être noire et sa culture, etc. Et c'est hyper beau. Et ça met un petit taquet à tous ceux qui pensent que le racisme anti-blanc existe. Passons à ma troisième recommandation, qui est Old Tales de Jasmine Sullivan, qui est un des meilleurs albums de 2021, qui est un album un peu sur le même principe que A Seat at the Table, mais qui célèbre les femmes de manière générale et leur sexualité, leur empouvoirment, et etc. Et c'est pareil, il y a plein d'interludes qui remettent du contexte et des morceaux hyper intéressants et tout. C'est un album que j'ai saigné en début d'année, il est merveilleux. Je vous le recommande mille fois. Et oui, Clem.
Et ben moi, du coup, si je peux me permettre de faire une petite roco, parce que vraiment, quand j'ai entendu ce morceau-là, j'ai pensé tout de suite à un groupe pop rock, je sais pas comment on va définir ça, mais qui s'appelle H-A-I-M, Haim.
Haim,
ça te dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose.
Et ben elles ont sorti un album, moi je sais que j'ai vraiment beaucoup écouté à l'époque, qui s'appelle Days Are Gone en 2013. Et vraiment, musicalement, c'est très proche de ça.
De Losing You ?
Ouais, ce qu'on vient d'écouter là. Et en vrai, vraiment, moi je sais que cet album-là m'avait vraiment enchanté.
Ok.
Voilà.
Trop bien.
Si vous avez aimé ces vibes-là, vous avez tout un album.
Allez,
aussi à apprendre.
Vous avez 4 recommandations pour le prix de 3. Super. Trop bien. Eh bien écoutez, nous pouvons passer au morceau d'après.
Bon, je vous préviens tout de suite, je pense que cet épisode va peut-être être un peu long. Et j'avoue que pour ce deuxième morceau, je vais pas déroger à la tradition, je vais vous parler d'un rappeur. Mais pas n'importe quel rappeur. C'est, je crois bien, l'un de mes héros. Ce rappeur, c'est MC Solar. Alors je pense que vous devez pas être surpris, on en parle en plus en ce moment un peu partout dans les médias, à l'occasion de la ressortie de son album Pros Combat. MC Solar, déjà, moi je me rappelle que c'était le seul rappeur dont mes parents avaient le CD, tu sais, dans l'immense bibliothèque de CD qu'on avait à la maison et dont j'avais la chance de pouvoir consulter, tu vois.
C'est le gars validé.
C'était celui qui, voilà, qui était dans le seul rappeur qui était là-dedans. Ouais. Et en l'occurrence, c'était un live qui s'appelle La Tour de la Question. Et c'est sur ce live que je découvre Caroline. Je me souviens qu'à l'époque, ma mère m'explique tout le jeu de mots autour des cartes du refrain.
Ouais.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Moi, je suis gamin. Je me souviens que je m'étais pris une claque d'écriture. J'ai fait « Waouh, c'est incroyable !» Tu vois. Et ça m'avait vraiment ouvert une porte. D'ailleurs, c'est drôle parce que pour moi, ce morceau, c'est le live.
Tu sais, ouais.
T'auras beau me mettre ce que tu veux, la version album, parce que j'ai écouté du coup, que j'ai découvert plus tard. Ouais. Mais vraiment, moi, pour moi, ce morceau ne sera jamais meilleur que la version live de La Tour de la Question. Je réécoute jamais ce live en plus, mais vraiment pour Caroline.
C'est celui-là.
C'est celui-là. Il n'y a pas photo. Donc par la suite, je suis au collège et je me prends, je pense en fait comme beaucoup de gens, toute la période 5e As avec Solar Pleur, notamment en 2001. En même temps, c'est ça. Qui pouvait vraiment passer à côté de Solar Pleur, je pense à l'époque. J'écoute aussi derrière, vu que... J'aime bien, j'écoute Maxis, qui est sorti en 2003, que j'ai vraiment énormément, oui, cette répétition est volontaire, que j'ai vraiment énormément écouté à l'époque. J'écoute ça parce que c'est Solar, parce que j'ai, je pense, d'une certaine manière, l'impression de perpétrer une certaine tradition familiale, tu sais, et parce que, tout simplement, c'était ultra populaire. Et puis, c'est après le lycée que, personnellement, moi, je commence vraiment à plonger dans le rap, à vouloir tout explorer, et notamment ce qui s'est fait dans le passé. Du coup, c'est à cette période-là que je découvre l'album qui vient de ressortir, qui s'appelle Prose Combat. On écoute tout de suite le morceau Dévotion, et on revient, et je vous dis ce que j'aime particulièrement chez MC Solar, mais surtout sur cet album.
L'as de trèfle n'a pas de conseil à donner. Prends le vague à l'âme ou la vie du bon côté. La première solution dès l'introduction se doit d'être bonne comme une nonne en dévotion. Qui est un mec qui n'a pas de chance? Le fils de l'amour progrède sa date de naissance. Être différent l'a beaucoup stressé. L'opinion publique l'a beaucoup vexé. Mais sa vie en main, oubliant les apparences. Parce que depuis l'enfance, il vit dans le monde du silence. Au boulot, on le voit comme un humanoïde. Sa promotion est une course de spermatozoïde. L'handicapé a happé l'handicapé. Ses capacités lui ont fait franchir le cap du dédain et de la non-communication. Avec calme et brio, il est objet d'admiration. Dévotion pour être top tel évangélista. Parce qu'un faux dévot devant sa rue la pista. De casting en casting, elle attend le verdict. Il tombe quand la nuit tombe. Vous êtes trop petite, alors elle baisse les bras au lieu de lever la tête. Elle est belle, mais pas seule comme l'était la Schtroumpfette.
Le lendemain, je suis content. Je vais commencer. Est-ce que j'ai une question pour toi?
Oui.
Est-ce que tu as un album où tu te souviens parfaitement de tout, c'est-à-dire de la manière dont tu l'as découvert et finalement un peu tout ce qui peut être lié autour de cet album, c'est-à-dire les sentiments que ça t'a provoqué, même les réécoutes, les choses comme ça?
Franchement, je sais pas, je crois pas.
Et bah moi, j'ai ça avec cet album-là, vraiment, avec Prose Combat.
Ouais.
C'était pendant la période du coup, je vous disais, où j'étais en études de cinéma. Et je faisais tous les jours l'aller-retour Paris-Banlieue dans ce cher RER A. Mm-hmm. Et là, je me souviens, c'était un matin, petit soleil levant, et je lance l'album. Et moi qui aimais déjà MC Solar, il me met vraiment une deuxième claque de la part, voilà, je reçois une deuxième claque de la part de cette personne après Caroline. Le morceau que je vous ai fait écouter là, c'est pas le plus connu de l'album, volontairement, parce que j'avais pas envie de mettre les morceaux vraiment obvious de l'album, mais c'est surtout aussi parce que je trouve qu'il synthétise assez bien tout ce que j'aime dans ce compact disque. D'abord, enfin vraiment, moi, cette manière de mélange des genres, avec d'un côté un peu ces rythmiques hip-hop très Native Tongue, Tribe Called Quest, ce qui me parle vraiment, qui sont un peu une sorte de base du hip-hop, mais je trouve
c'est boom-bap, quoi.
Ouais, voilà, vraiment le boom-bap pur, mais que je trouve qu'il sonne tellement bien. Il y a cette manière de sampler le jazz, enfin tout ça, voilà, déjà hip-hop, jazz, etc. Moi, déjà, tu vois. J'aime beaucoup aussi, quand t'écoutes un peu plus, c'est la basse, toute la basse que tu sens compressée et qui est vraiment directement irritée de la house. Et c'est pas étonnant parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais en fait il est très bien entouré sur cet album-là. Et puis l'absence de refrain, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les morceaux de cet album-là, c'est des boucles de son. Et tu vas me dire, c'est normal, parce qu'en fait le son il déchire. Moi je trouve que vraiment cet album il a pas vieilli.
Il a vieilli puisqu'il est sorti en 94 et quand tu l'écoutes, ça sonne 94.
Ça sonne 94, mais en fait. Parce qu'on ne fait plus la musique comme à l'époque. Mais en vrai, je trouve que quand c'est tellement... Je trouve que ça n'a pas pris une ride. Enfin, c'est propre. Tout est tellement parfait. Moi, c'est ça qui me fascine avec ça. Ce n'est pas étonnant parce que, comme je vous disais, il est hyper bien entouré. Il a, du coup, pour faire cet album-là, il a d'abord le producteur de son premier album qui s'appelle Jimmy J, qui est vraiment, à l'époque, quelqu'un d'hyper intéressant et vraiment à la pointe un peu de ce qui se fait. Et il a aussi Boombas et Sdar, qui à l'époque ne sont pas encore devenus Cassius. Et c'est vraiment avec cet album-là où le binôme se
rencontre plus
ou moins. Ouais, pas se rencontre parce que je crois qu'ils ont déjà bossé sur un morceau de l'album précédent d'MC Solar ensemble. Mais c'est là où ils sentent un monde. Voilà, il y a une alchimie.
Magie secret.
Donc en fait, Prose Combat, au-delà d'être un album important pour moi,
c'est
vraiment un album hyper important parce que ouais, c'est ça exactement, c'est une pierre importante de la naissance de la French Touch et l'électro à la française, donc je trouve déjà c'est aussi intéressant d'écouter cet album là avec ce prisme. L'autre chose qui est évidente, c'est l'écriture d'MC Solar, quoi. Moi, son sens des mots, des formules, c'est vraiment lui. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup dans le rap qui ont types de vocabulaire. Parfois, on peut même frôler la calembour et je pense qu'il y a des gens qui peuvent...
Moi, je suis pas sûr d'avoir compris quel est le message du morceau, je vais pas mentir.
Je pense qu'il est vraiment sur une sorte de... Je vais pas faire une analyse proprement parlée parce qu'en plus, je t'avoue, j'ai pas fait l'analyse de texte, mais moi, de ce que j'en ressors, c'est vraiment... il te raconte des histoires. Il te raconte des histoires là qui ont un peu la même thématique autour de gens qui veulent aller plus haut, susciter l'admiration. C'est quelque chose qu'il répète à tous les refrains. Et du coup, il te parle de différentes... je trouve que c'est plein de petites histoires. Je crois qu'il y en a trois.
Il y en a trois. J'étais en train de lire les paroles en même temps parce que je voulais être concentré.
Et moi, c'est une manière de faire que j'aime bien. Je trouve que je sens quand même ce point... cette ligne directrice dans le morceau. Et j'ai l'impression d'avoir trois petites histoires. Je pense que c'est pas notamment un hasard si aussi je me prends cet album-là au moment où je fais une école de ciné.
Ouais.
Parce que d'une certaine manière, quand il parle...
il y a des histoires.
Voilà, t'as des films qui s'infusent dans ta tête, quoi. Et du coup, moi, c'est vraiment, vous l'aurez compris, j'adore cet album. Je crois qu'il fait partie de mes trois albums rap ever, enfin, tu vois. Et là, du coup, je suis vraiment heureux parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il vient de ressortir parce que ça faisait 20 ans qu'il y avait une brouille avec la maison de disques. Et du coup, ça faisait 20 ans que les quatre premiers albums de MC Solar
n'étaient pas disponibles,
mais genre nulle part, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais pas trouver ça à la Fnac, tu pouvais pas trouver ça en streaming. Donc, en vrai, la seule manière de se le procurer, c'était des liens pirates YouTube ou c'était de le payer
800 balles. D'avoir chopé le CD à l'époque et de l'avoir gardé, quoi.
Et sinon, même, je crois que j'avais regardé les prix pour essayer de l'obtenir, c'était exorbitant. Vraiment. J'imagine. Pour un album, tu fais, bon, je t'aime beaucoup, mais non.
Mais je n'ai pas cet argent.
Ouais, j'ai pas cet argent. Ouais. Mais enfin, là, je pense que 20 ans après, ils ont enfin régler leurs embrouilles.
Ouais.
Et l'album est de nouveau disponible en CD, en vinyle, en streaming. Donc régalez-vous, j'ai envie de vous dire.
Franchement.
Non, t'es pas convaincu, toi ? C'est intéressant.
Alors, moi je trouve ça old school.
Ok, je peux comprendre.
En fait, je sais pas si c'est le fait que ça soit MC Solar et que dans ma tête c'est un vieux truc.
Ouais.
Et du coup, je suis en mode.
À l'époque, ça.
À l'époque en 94, j'avais 2 ans.
Évidemment.
Voilà. Mm-hmm. Et 2001, j'en ai 9, quoi. Donc en vrai, moi en 2001, je suis pas en train d'écouter MC Solar.
D'accord, ouais. Et c'est vrai qu'après, il a un peu 2001, 2003, et c'est sûr qu'après.
Et je pense que moi, ce que je connais de MC Solar, c'est. Bon, alors il y a un de ces couplets que je connais par cœur, mais qui est pas sur un de ces morceaux. C'est sur All In My Grill, version française de Missy Elliott, où il fait un featuring. Et alors, par contre, ce couplet-là, je le connais par cœur, de A à Z. Et sinon, l'autre morceau que je connais, ça doit être Hasta La Vista et Caroline, comme tout le monde, tu vois. Mais il y a un truc où j'ai jamais pris le temps d'écouter MC Solar. Et je pense notamment, il y a un vrai truc, tu parlais des paroles tout à l'heure. Et moi, en fait, si je comprends pas ce que tu me dis,
Parce que franchement, il n'y a pas plus intelligible en plus que MC Solar.
Mais je sais pas comment dire. Genre là, on dirait une fable de La Fontaine que j'ai pas compris.
Tu captes pas morale de l'histoire, c'est
ça ? Ouais, je me sens un peu teubée en fait à la fin. Je suis un peu en mode, c'était quoi le message du coup ? Parce qu'ok, il y a des histoires, mais en fait, qu'est-ce qu'elle raconte ? Enfin, genre, il y a un peu ce truc où là, je suis un peu en mode, bon, bah, d'accord, très bien.
Ah bah, c'est marrant. Enfin, moi, vraiment, je t'invite en plus, je pense vraiment à écouter le morceau parce que je pense pas que ça soit si difficile à capter. Alors, peut-être sur une première écoute et puis en étant vraiment rivé sur les paroles. Je sais pas. Moi, je sais que c'est pas forcément comme ça que je découvre le mieux les lyrics d'un morceau. Mais ça, c'est vraiment que ultra perso.
Mais ouais, je sais pas. En fait, en vrai, peut-être je suis pas juste réceptive à la manière d'écrire de MC.
Peut-être,
Solar,
hein, ça, par contre, je peux entendre. Il y a peut-être un côté.
Il y a beaucoup de mots, quoi.
Il y a beaucoup de mots, un vocabulaire varié, plus varié que ce qu'on a l'habitude d'écouter. Moi, ça que j'aime bien, c'est qu'il a aussi justement ce côté un peu unique.
Ouais.
Je me souviens clairement que je pense que moi, j'étais porté, comme je te disais, peut-être par les écoutes des albums les plus pop, finalement. Donc, j'étais forcément acquis à sa cause. Mais moi, je me suis vraiment pris pour ce combat parce que musicalement, moi, je trouve ça fou, en fait. Vraiment, enfin, fou. Peut-être que c'est là, tu vois, j'utilise des termes comme ça parce qu'il y a l'amour qui parle, mais je trouve ça d'une perfection et d'une pureté comme finalement j'entends assez peu dans les albums de rap. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que moi je vous conseille d'aller écouter l'album. En plus du morceau du coup Dévotion que je vous ai fait écouter, il y a quand même un paquet de morceaux aussi assez classiques, Nouveau Western avec le sample de Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Il y a Obsolète, qui est vraiment pour moi vraiment un de mes classiques perso. Il y a La Concubine de l'Hémoglobine, Séquelles, enfin c'est quand même des morceaux où il y a moyen à mon avis que vous disiez, je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Et moi je trouve l'album vraiment parfait. Si vous intéressez vraiment à la création de voilà, si je vous ai donné un peu envie en tout cas et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille vraiment d'aller lire le dossier réalisé par l'ABSCDR du son qui s'appelle Prose Combat, l'histoire d'un classique. Vous trouvez ça sur internet hyper facilement. C'est une encyclopédie de vraiment sur la autour de la création de cet album. C'est passionnant, c'est pareil. Bah tu vois, je te disais, je me souviens très bien où j'ai lu ce dossier là ouais. Je me souviens, j'étais en Suisse à Genève, voilà, j'avais un temps un peu à tuer et j'ai lu ça pendant peut-être une heure ou deux, parce que comme ouais, je lis lentement mais le dossier est quand même un peu épais, et vraiment j'ai eu la sensation d'avoir dévoré un bon roman. Et puis si vous avez envie d'écouter peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus récent, je vous invite à aller écouter un morceau qui s'appelle Rouge, c'est Ashkid en featuring avec MC Solar, qui est sorti sur le dernier album d'Ashkid, je crois en 2020. Moi, je sais que le MC Solar plus actuel, j'ai globalement plutôt été déçu. Il est revenu en 2019. Moi, j'avoue que l'album, ouais, je l'ai très peu écouté. Mais par contre, quand j'entends ce morceau et la manière dont il rappe dessus, et là, je trouve qu'avec Ashkid, vraiment, ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai de l'espoir encore à MC Solar. Et je me dis qu'à l'avenir, il y a moyen qu'on ait encore un bon album de MC Solar. Donc, c'est tout ce que moi, perso, je souhaite. Voilà, j'ai fini ma dissertation d'amour à propos d'MC Solar.
Belle histoire d'amour.
Je crois qu'on peut passer au son d'après.
Pour ce troisième morceau, je vais vous parler d'un duo qui s'appelle Les Jadou Sisters. Les Jadou Sisters, c'est un duo formé par deux sœurs jumelles nigérianes qui s'appellent Taiwo et Kehinde Les Jadou. J'espère que je prononce correctement ces prénoms, qui sont des cousines éloignées de Fela Kuti, donc qui est considéré comme l'un des inventeurs de l'afrobeat, sans S, très important, qui est donc un espèce de mélange jazz, funk, musique traditionnelle yoruba, voilà, l'afrobeat nigérian. Probablement que si vous connaissez Fela Kuti, vous voyez de quoi je parle. Elles ont commencé en faisant des chœurs et elles ont fini par sortir 4 albums. Entre 69 et 79, elles ont été assez populaires à leur époque, et surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de meufs qui faisaient de la musique sur le devant de la scène. C'était même assez difficile parce que bah voilà, c'était des meufs dans les années 70 quoi, et j'ai vu une interview où elle parle de ça en disant qu'en gros, à l'époque, bah, les femmes c'était à la cuisine. Et que, en fait, dans les années 70, déjà, elles commençaient à parler, que ça soit dans leurs chansons ou dans leurs interviews, dire que peut-être ça serait bien de changer les rôles genrés, etc. Donc, big up elle. Et donc, elles chantaient pas mal de trucs assez politiques, allez, en tout cas assez politisés. Pour vous décrire la musique, c'est assez difficile à décrire parce qu'il y a plein d'inspirations, autant de la musique nigériane que de la musique américaine. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années, et d'après mes archives personnelles, c'est-à-dire mes playlists mensuelles, c'était en 2016, très exactement, voilà, avec le titre que je vais vous passer aujourd'hui, qui s'appelle Life's Gone Down Low, qui est extrait de leur album qui est sorti en 76, qui s'appelle Danger. Je vous propose qu'on écoute et qu'on en parle, comme toujours, après. But do you know something, baby, life's gone.
Ça défonce.
Ça me fait plaisir que ça te plaise.
Ah ouais, c'est trop cool. Franchement, tu viens de me ramener quelque chose qui me change. Ça fait plaisir. Ouais, je suis vraiment content.
Je suis contente.
Ah ouais, ça fait du bien.
Ouais, c'est un morceau qui m'apaise beaucoup. que j'ai pas mal écouté en effet à l'époque où je l'ai découvert. Et en fait, je pense que c'est comme pour Solange, tu vois, c'est un espèce d'univers complet qui fait que ça me va bien et que j'aime ce qui se passe, quoi. Mmh. Il y a d'abord leur voix, les harmonies de voix qu'elles ont toutes les deux, qui sont globalement sur à peu près tous leurs morceaux et qui sont vraiment très chouettes. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté un peu... Il y a une vibe un peu The Doors dans ce morceau, et je pense que pour moi, il y a une vibe The Doors parce qu'il y a ce synthé là, qui est dans ma tête très The Doors, mais qui est probablement très années 70 de manière générale.
Ouais, ouais.
Mais je saurais même pas dire quel est le synthé, est-ce que c'est un synthé précis ou quoi, mais tu vois, genre, ces espèces de notes un peu orgue à moitié, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, en écoutant, je pense pas à ça, mais je vois la ref, effectivement. Voilà. Je pense, à mon avis, ça devait être assez. Il y a quelque chose d'assez présent dans les années 70. Ouais.
Exactement. Et donc, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu ce refrain hyper entêtant. Tu le connais à la fin du morceau, tu vois, genre ça dure 4 minutes. À la fin, t'es en mode OK, life's gone down low. OK, ça, on l'a. Mais il y a aussi au milieu une longue plage musicale avec les synthés old school, mais aussi la guitare, etc.
Trop du bien.
Qui est vraiment, voilà, exactement, qui est vraiment cool et qui est un truc. En fait, je pense que c'est le format qui est. Plus un truc qui se fait aujourd'hui qui fait que j'aime ce morceau, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et de ce que j'analyse des paroles, il y a un truc un peu salé dedans, tu vois, c'est un peu de dérision en mode c'est bientôt la fin du monde, let's go down low, on est bientôt dans la merde, quoi.
Ouais.
Et en tout cas, c'est moi ce que je comprends de ce qu'elles disent, quoi. Mmh. Et qu'en même temps, il y a un petit côté un peu hippie, parce que genre en fait, avec un peu de. Qu'est-ce qu'elles disent? With a little bit of understanding, life's gonna get good. Donc en gros, si on s'écoute et on se comprend un peu, ça ira mieux. Donc il y a le petit côté hippie plus le je suis en mode c'est les années 70, donc j'ai bien compris, oui. Comme je disais tout à l'heure, elles ont d'autres titres qui sont plus politisés, qui soient adressés soit aux politiciens eux-mêmes, donc un peu, tu vois, genre autour de la corruption, etc., soit plutôt des petites catchphrases pour le peuple en mode OK, ça va être la révolution, faut aller se battre, tu vois. Mais tout en étant très chill, parce que en fait, c'est, tu vois, genre leur musique, c'est jamais très vénère.
Bah,
mais...
surtout là, je disais, moi, il y a quelque chose justement qui me plaît bien, c'est tu sens vraiment ces influences reggae,
ouais,
dans la rythmique et
bien
tout.
Sûr, ouais,
effectivement,
sûr.
On va. Tranquille.
On est tranquille, mais on dit quand même des trucs. Ouais, ouais. Et je pense que, tu vois, ce que je disais avant qu'on écoute le morceau, c'est qu'il y a ce côté, déjà, c'est des meufs dans les années 70 qui sont quand même relativement connues dans leur pays. J'ai lu un gros article du Guardian, donc, qui est donc en anglais, mais où en gros, ça retrace un peu leur histoire, parce qu'il y a une des deux sœurs qui est décédée en 2019. Elle racontait à un moment donné que, en vrai, à l'époque, on pensait que les meufs, elles avaient pas de cerveau, quoi. C'est genre, vous servez à rien, donc dégagez. Et elles étaient en mode, bah, en fait, on a des trucs à dire et on va les dire quand même, tu vois. Et que, en gros, les paroles et les chansons qu'elles chantaient, c'était un peu genre, on va donner une voix aux personnes qu'on n'écoute pas, que ça soit sur la place des femmes ou sur les nécessités, par exemple, du peuple nigérien de l'époque, genre avoir des écoles. Ça serait pas mal. Elles ont expliqué aussi qu'elles galéraient pas mal, par exemple, à trouver un groupe. Tu vois, à l'époque, qu'on leur a pas mis des bâtons dans les roues pour trouver un groupe avec elles. Mmh. Et qu'en fait, elles expliquent avec le recul que, bah, en vrai, c'est juste des personnes qui étaient un peu, genre, effrayées par l'indépendance qu'elles dégageaient, quoi.
Ouais,
parce
qu'elles
avaient
sûr.
Besoin de personne. Du coup, elles ont eu leur carrière, tu vois, c'est fin 60, après tout début des années 80. Et elles ont déménagé à New York après. Et a priori, comme beaucoup d'artistes, elles ont un peu été oubliées, en tout cas... Enfin, tu vois, genre, elles font partie de la culture nigériane, mais à part ça, dans le monde, on les connaissait pas trop, etc.
Ouais, bien sûr,
et
ça,
donc,
c'est pas trop
comme
exporté,
toujours, ça a été réédité, blablabla, blablabla, probablement par des labels anglais et américains. Et donc, elles ont un peu un renouveau dans leurs dernières années, enfin, en tout cas, dans les dernières années de vie d'une des deux sœurs, là, qui est décédée en 2019. Et elles ont été samplées par Nas en 2007.
Ah,
mais
ouais.
Alors, sur une mixtape un peu sombre, franchement, j'ai pas trop réussi à la trouver. Mais le morceau, ça s'appelle Life's Gone Low. Et sauf qu'il les a pas crédités, donc je crois qu'elles avaient un peu le seum de pas avoir été créditées par Nas, qui est quand même un des plus gros rappeurs du monde. Voilà. Mais donc du coup, pour les recos, je voudrais vous parler de trois trucs. Bon, forcément, le premier, c'est l'album, voilà, de 76 qui s'appelle Danger, où il y a ce morceau, mais où il y a aussi d'autres morceaux très chouettes. Et je voudrais vous parler aussi d'un autre artiste, plus ou moins, entre guillemets, encore une fois, de notre point de vue très eurocentré, oublié du Nigeria, qui est un artiste qui s'appelle William Onyebor, dont une compilation a été ressortie en 2013, mais pareil, qui est un artiste des années 70-80. Et j'ai regardé récemment un documentaire de 30 minutes, qui est sorti sur la chaîne YouTube de Noisé, que je vous mettrai bien sûr dans les notes de ce podcast, qui est en anglais, qui s'appelle Fantastic Men, qui est un titre de William Onyebor. Et en gros, c'est un peu la recherche d'un label anglais qui essayait de trouver qui était ce gars, parce qu'ils avaient trouvé des disques à lui, et ils étaient en mode, on voudrait lui demander les droits pour rééditer les trucs. Et,
enquête.
Et donc voilà, c'est un peu une mini-enquête, bien que, en vrai, juste le gars soit très vivant, mais ait très pas envie de parler à des gens, en fait. Il est en mode, laissez-moi tranquille, j'ai fait ma musique dans les années 80, maintenant, je suis très pieux et je suis prêtre, donc laissez-moi. Et, mais en attendant, il a a priori donné ses droits pour être réédité, et donc ce docu est assez intéressant, et ça m'a, enfin, j'ai trouvé ça assez chouette, et vraiment, la musique de William Onyebor, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Enfin, tu vois, genre, il avait toute une panoplie de synthés et tout, il y a une pochette où c'est vraiment lui au milieu de ses synthés, et tout le monde est là, mais comment est-ce qu'il avait tout ça, genre où est-ce qu'il a chopé tout ça, etc. Il faisait des trucs tout seul avec des boîtes à rythme et tout, et c'est incroyable ce qu'il fait, et notamment le morceau Fantastic Man qui est vraiment super. Bref, donc j'ai découvert ça, je me suis dit que ça allait bien avec les Legendou Sisters, donc voilà,
trop bien. Ah bah là tu m'as, je suis hyper curieux, je vais aller écouter tout ça là.
C'était mes petites recos. Je vous dis qu'on passe au morceau d'après, en fait, simplement.
Pour clôturer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un guitariste et songwriter lyonnais et qui fait du folk blues. En l'occurrence, c'est nos esprits se rencontrent, parce que tu vois, moi, quand j'ai, avec ce que tu viens de nous ramener, j'entends un peu des vibes guitare électrique, blues et tout. Et ben voilà, moi j'arrive avec un jeune artiste qui découvre d'abord le rock des 60s et des 70s, Led Zeppelin, Deep Purple, avant de se plonger dans les inspirations un peu de ces mêmes groupes, c'est-à-dire le blues. Et là, je pense qu'il se prend une grosse gifle, et il part à l'exploration vraiment du blues, qui prend ses racines sur les rives du Mississippi, et dont Robert Johnson est un peu la figure de proue. Il s'est totalement immergé dans cette musique, jusqu'à sortir en janvier dernier un premier album qui porte son nom. Il s'appelle Théo Sharaf. Moi, je le découvre du coup à ce moment-là. Je me souviens très bien, c'était un soir d'hiver. C'était les soirs où il fait nuit à 17h30, ce qui nous guette bientôt.
Oui.
Voilà, j'allais pas très bien, en vrai. Je vivais un moment pas cool. Et j'allume la radio et je tombe par hasard sur un live qu'il est en train de réaliser dans les studios de FIP. Et dans ce moment qui était plutôt pesant, sa musique m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça m'a apaisé. Donc j'en dis pas plus, on écoute tout de suite le morceau qui ouvre l'album, ça s'appelle Vampire. J'espère que cela vous fera autant de bien qu'à moi.
I'm a vampire. My skin burns when the sun rises. I could get higher, it wouldn't be wise. Drink blood from your neck all night long, yeah, so did you. Laying all naked with no one else to belong to. Now I long for the taste of your skin. I can come out till the night comes in. Oh yeah. All right.
C'est trop beau.
Ouais, ça te plaît?
J'adore. You got me.
Et tu m'envoies ravi. Je suis déjà content parce que c'est vrai que je ramène pas forcément très souvent ce type de musique. Mais il m'a particulièrement touché. Je pense que bon, il y a d'une part déjà cette voix grave là qui semble être d'un homme, celle d'un homme qui a traversé les époques. Alors je pense qu'il a 27 ans, tu vois. Il y a des petites réminiscences, je trouve, un peu de Johnny Cash. Et puis tout à l'heure, du coup, je vous parlais d'MC Solar, de musique, tu vois, quand même un peu avec plusieurs couches, musique parfaite, etc. Là, en fait, ce qui me touche, et ça qui est génial avec la musique, c'est vraiment l'aspect minimaliste. C'est-à-dire
un mec, faire plus dépouillé, hein.
Une guitare, un micro.
Enfin, si, mais ça s'appelle un a cappella, quoi.
Ouais, c'est ça. Et tu ressens même dans la prise de son, là, cet aspect acoustique brut. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très poignant dans cette simplicité. Ça participe, et puis j'aime bien, inconsciemment, mais parce que je pense que je suis un petit Français tu vois, qui vit à Paris, mais en fait, toutes les images d'Amérique que charrie sa musique.
Bah oui, c'est, je vois ce que tu veux dire.
L'album, je trouve que ça donne vraiment... Quand t'écoutes, l'album est vraiment comme ça. Donc ouais. C'est vous embarquer pour une demi-heure, 40 minutes, je crois, de
guitare-voix.
De guitare-voix. Okay. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être sur un road trip, tu vois. Alors même s'il y a quelque chose de plus nocturne, mais oui, j'aurais pu le ramener, pareil, en fait. Après coup, je me suis dit, j'aurais pu le ramener cet été, tu vois,
grave.
Pour le road trip. Alors, ça aurait été un road trip nocturne, mais ça aurait été, je trouve, parfaitement dans le thème. Et puis, bah, du coup, ouais, moi, j'avais envie de le remercier parce qu'il m'avait fait du bien au moment présent. Et puis, surtout que depuis, ça m'a, je pense, replongé dans ce type de musique. Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était juste avant l'été, j'ai eu une phase où j'ai eu envie de réécouter du Bob Dylan, que j'avais beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Et vraiment, là, pendant quelques jours, j'ai replongé dans la discographie de Bob Dylan, en réécoutant un peu tous ses grands classiques. Et pendant quelques heures, tu sais, j'avais envie que la BO de ma vie soit du Bob Dylan. Tu vois, ça t'a déjà fait ça avec des artistes?
Bon Iver, connaissez-vous Bon Iver? Parce que auquel cas, ma playlist de ma vie, j'aimerais que ça soit ça. Voilà.
Ouais, c'est un bon choix. Je trouve que c'est une belle vie.
Peut-être pas Forever Ago parce que c'est un peu trop triste. Mais l'album Bon Iver, il est très bien.
Il serait doux, ouais. Ça serait une douce vie.
C'est, ouais.
Une douce vie auprès d'un lac.
Un peu trop déprimante à mes yeux. L'autre, ça va.
Non, c'est vraiment. Je trouve que je valide totalement. Moi, là, c'est vrai que Moi, c'était du Bob Dylan. Et je me suis dit, putain, ça doit être cool. Même si. Les paroles de Bob Dylan sont largement politiques, etc. Donc c'est pas pour le fond, mais vraiment pour la musicalité. J'avais envie de ça, donc.
Et j'essaye de te trouver un artiste auquel ça me fait penser depuis tout à l'heure, mais je trouve pas là.
Ah, c'est frustrant ces moments-là.
Dans les archives de Mademoiselle.
D'ailleurs,
en mode, on l'a eu en session, mais je sais plus comment il s'appelle.
Petit disclaimer pour ceux qui ont écouté du coup l'épisode avec Marion Séclin. Je sais plus de quoi on parlait exactement, mais si, je pense qu'on parlait de Kurt Vile.
Ah oui, bah oui.
Et on parlait d'Americana et tout. Et en fait, l'artiste auquel je pensais, c'était Johnny Cash.
Justement. C'était Johnny Cash.
Donc, moi, en tout cas, en attendant que Louise cherche peut-être l'artiste si elle le retrouve,
je
vous conseille vivement d'aller écouter du coup l'album de Théo Charaf du même nom.
Je l'ai trouvé. Incroyable.
Ah, qui est-ce?
Phil Boriva.
Eh bien, écoute, je ne connais pas. Je vais aller écouter ce monsieur du coup.
Je mettrai en note du podcast.
Parfait. La deuxième roco, si vous avez, je pense, envie de vous découvrir aussi, je vous conseille les sessions live parce que finalement, c'est assez proche de l'album.
Oui.
Mais j'ai écouté les sessions live qu'il a fait sur FIP, du coup, la fameuse. Et il a fait aussi une session Arte Concert qui sont très chouettes, très fidèles à ce qu'il est. Et surtout, en préparant cet album-là, moi, ça m'a ramené surtout sur un autre album, en l'occurrence une BO. La BO du film Inside Llewyn Davis.
Ah
oui. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un film réalisé par les frères Coen.
Ouais,
moi, que j'aime beaucoup.
Je vois l'acteur principal.
C'est un très joli film. Il y a Oscar Isaac, Carey Mulligan et Justin Timberlake, d'ailleurs bien connus des amoureux de musique qui, à mon avis, écoutent ce podcast.
Oui.
Non, et vraiment, la BO est trop bien et ça parle justement d'un chanteur. Enfin, le film parle d'un chanteur de folk.
Oui, je crois.
Qui est un peu.
Ouais, je l'ai peut-être vu en fait maintenant.
Qui est un peu en bout de route et qui est pas très bien dans sa vie. Et la BO est juste trop bien. Voilà, donc très bonne BO et très bon film. Je suis content aussi de ramener de temps en temps un petit troc au film. C'est cool. Et vraiment, parce que c'est vraiment un très très bon film des frères Coen.
D'accord.
On est déjà arrivé à la fin de l'artiste.
Already.
Bon, je pense que là, on a un peu plus parlé. Là. On était bavards aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les lundis, on met à jour la playlist. Vous y retrouverez donc les 4 nouveaux morceaux. Ainsi que tous ceux qu'on vous a présentés depuis le début du son d'après.
Ça commence à faire.
Ouais, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, on était un peu, on avait dépassé les 130 quand même.
Ah, quand même.
C'est pas mal, hein. Ouais. Si vous voulez retrouver un nom, prénom, mot qu'on aurait pu écorcher, vous le savez, vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast. Et puis, bien sûr, si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de nous aider à faire grandir ce joyeux bordel. Eh ben, pensez à en parler autour de vous et à mettre des petites notes dans les commentaires Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup, 5 étoiles, tout ça, tout ça. Tu l'avais déjà dit au dernier épisode,
oui.
Mais je le répète parce qu'on est à la veille, en fait, une semaine.
À une semaine près.
On est à une semaine près d'avoir un nouvel invité dans le son d'après. Il est possible que ça parle de rap. C'est vraiment le seul indice que je donnerai là. Et je suis... très content.
C'est abusé comme indice, c'est hyper facile du coup.
Bon, si c'est trop abusé, ça sera coupé au montage. Mais sinon, moi je suis content.
Non, je le laisse, comme ça on verra si les gens trouvent.
Nous, entre-temps, Louise, qu'est-ce qu'on se dit?
À la semaine prochaine.